Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Ils sont un peu plus de 100 000 au Koweït, mais on en trouve aussi plusieurs milliers en Arabie Saoudite et dans les Émirats. Les bidounes, littéralement sans nationalité, sont apatrides dans leurs pays respectifs, car ils ont souvent été oubliés lors des recensements qui ont suivi les indépendances. Ils sont désormais marginalisés, voire instrumentalisés, comme par exemple dans le cadre de la lutte contre l'État islamique ou d'autres organisations qualifiées de terroristes. Une position particulière qui crée une situation d'instabilité politique et sociale quasiment artificielle dans une région qui n'en manque pas, les bidounes du Koweït. C'est le sujet d'Orient Hebdo de ce dimanche. Et pour en parler, nous accueillons Claire Beaugrand. Bonjour madame.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous êtes chercheuse au Centre d'études du Golfe à l'Université d'Exeter en Grande-Bretagne et vos recherches portent sur les dynamiques politiques et sociales dans les pays du Golfe. En particulier, vous vous êtes intéressée à un groupe de population très particulier, ce sont les bidounes. Qui sont-ils précisément ?
Les bidounes, maintenant on les connaît désormais sous ce nom-là, mais une partie de mon travail était de montrer que justement c'est une nouvelle catégorie sociologique dans le Golfe. On pourrait traduire par des apatrides, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas de nationalité. Simplement, la traduction apatride elle-même est sujette à controverse, dans la mesure où ils sont mieux définis par le fait qu'ils sont dans un bras de fer avec l'État, et en particulier l'État du Koweït sur lequel j'ai travaillé, sur le fait qu'ils sont éligibles ou pas à la nationalité.
De quand date cette situation particulière de ces populations ?
Alors elle émerge difficilement, bien sûr. C'est un problème qui est issu directement de la promulgation des lois de nationalité. Donc au Koweït, c'est en 1959. Dans les autres Émirats, c'est plus tard. Et puis, d'abord, c'est une situation qui reste tout à fait opaque, qui ne sont pas tout à fait visibles. Il y a plusieurs dénominations. Donc historiquement, dans les archives, on les appelle d'abord les fils du désert. Puis ensuite, ceux qui ne sont pas koweïtiens. Et puis, petit à petit, bidoun, c'est une formule qui renvoie à bidoun jinsia, sans nationalité. Et puis, petit à petit, le vocable changera. L'État koweïtien, en 86, décide de faire passer cette catégorie dans la catégorie des résidents illégaux. Mais l'appellation restera jusqu'à nos jours, désormais. Je dirais la situation koweïtienne est vraiment la situation à l'origine du terme et maintenant on désigne les bidounes dans tout le pays du Golfe.
Donc c'est une situation tout à fait contemporaine. Est-ce que les bidounes forment une population homogène dans leur origine par exemple ?
Dans leur origine, la catégorie sociologique est absolument hétérogène. Au sens où je m'explique, elle mélange des situations très diverses. L'origine du problème tient au fait que beaucoup de personnes ont été laissées pour compte ou leurs dossiers n'ont pas été pris en compte au moment de la loi de 1959. C'est très intéressant en termes de définition du corps citoyen de voir comment on a défini le corps citoyen en 59 à Koweït. C'est-à-dire que pour pouvoir se montrer éligible à la nationalité koweïtienne, on devait passer dans 4 comités de nationalité. Et donc, ce que je montre, c'est que le corps citoyen, finalement, est une sorte de photo instantanée de qui résidait intramuros dans la ville-port de Koweït en 59. Donc, tous ceux qui étaient à l'extérieur de ce contexte urbain ou qui n'ont pas eu l'occasion de venir ou aussi, de plus en plus, qui ne faisaient pas partie des réseaux de connaissances, tout bêtement, n'ont pas pu se présenter et montrer, en fait, les preuves orales, bien sûr, suffisantes pour faire partir du corps citoyen. Donc ça, c'est l'origine des bidounes. Ce sont donc des gens qui étaient en périphérie, que moi j'appelle les étrangers proches de la proximité, qui sont culturellement très proches, géographiquement très proches aussi. À cette catégorie va s'ajouter plusieurs autres catégories, puisqu'en fait, les bidounes, ça va être une catégorie assez attrape-tout, ce qui va finir justement par provoquer la décision de les considérer comme des illégaux, parce que à cette catégorie s'ajoutent donc certains qui n'ont par exemple pas voulu le second degré de nationalité koweïtienne. J'y reviendrai, mais il y a plusieurs degrés de nationalité koweïtienne. Ceux qui sont les fils de koweïtiennes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les enfants d'une koweïtienne dont le père n'a pas passé la nationalité parce que soit il n'est pas connu, soit parce qu'il est divorcé avant la majorité. Et puis, plusieurs cas de gens qui vont venir et qui vont se proclamer bidounes. Alors, ces gens qui viennent et qui se proclament bidounes, il y en a aussi de plusieurs sortes. Il y a d'abord un phénomène très intéressant d'appel d'air, qui est lui-même créé par l'État koweïtien, qui recrute dans ses forces armées des bédouins de la périphérie, donc qui peuvent venir de Jordanie ou de, du nord de l'Arabie, ou à Sirhan, pour être embauchés dans l'armée sur une base tribale. Ils viennent de la périphérie et ils sont considérés comme bidounes dans les années 60-70. Et après, alors, il y a un phénomène qui est le plus postérieur et qui, en fait, va être à l'origine de la décision du Koweït de 86 de traiter toute cette population, quelle que soit l'origine, hein, donc de toutes les catégories que j'ai mentionnées, comme illégales, qui sont des Irakiens du Sud, qui sont probablement poussés vers le Koweït du fait de la guerre Iran-Irak, ou tout bêtement par le différentiel de richesse. Et donc ça va être l'argument, la pièce maîtresse de l'argumentation du Koweït pour en 86 dire « on ne veut plus de cette zone grise entre nos étrangers et nos nationaux ». Tous ces étrangers bidounes, enfin sans nationalité ou qui se prétendent sans nationalité, sont des illégaux, donc ils n'ont plus de droits.
Alors justement, quels sont les droits qui leur manquent pour vivre au quotidien, notamment au Koweït?
Alors ça, c'est assez facile comme question parce qu'il leur manque tous les droits finalement. Alors avec plus de nuances, parce que en 86, on les déclare illégaux, donc ils sont considérés comme ici des sans-papiers. C'est aussi d'ailleurs un des registres de l'argumentation koweïtienne en disant chacun a ses sans-papiers finalement. Sauf que les leurs, ça fait trois générations qu'ils n'ont pas de papiers et aussi...
Et qu'ils vivent sur place.
Qu'ils vivent sur place. Et aussi qu'on cherche à leur faire dire qu'ils ne sont pas koweïtiens. En 86, ils se retrouvent dans une situation d'illégalité, alors que jusqu'à présent, il y avait une certaine tolérance pour l'éducation des enfants dans les écoles publiques. Il y a toute une génération de bidounes qui sera scolarisée avec les koweïtiens. Il y avait une certaine tolérance dans toutes les administrations, dans le secteur public et privé. La décision est faite en 86. Elle met du temps à se mettre en œuvre parce que dans ces années-là, ils sont plus de 70% dans les forces armées, la police et l'armée. Elle se mettra en place véritablement après la libération de Koweït, puisque Koweït est envahi en 90. Donc, le temps que tout ça se mette en place, en fait, la politique répressive, elle se met en place dans tout son caractère répressif en 91 et particulièrement dans le contexte post-libération de répression contre les bidounes et contre les Palestiniens. Parce que les bidounes vont être accusés, comme les Palestiniens, de façon collective, de trahison et d'intelligence, de sympathie pour l'ennemi. Donc, ils n'ont plus de droit à l'éducation, ils n'ont plus d'accès aux soins de santé, ils n'ont plus droit de travailler dans les administrations publiques. Et puis, il y a aussi des directives pour pas les embaucher dans les administrations privées. Ça, c'est le statut officiel. Ils n'ont plus le droit non plus d'avoir des droits très, très symboliques. C'est pour ça que je dis c'est un peu différent des sans-papiers. Ils n'ont, par exemple, pas le droit d'avoir de certificat de naissance, pas le droit d'avoir de permis de conduire et pas le droit d'avoir de certificat de décès ou de mariage. Ce qui donne des situations de droit complètement ubuesques. Il y a encore toujours des bidounes qui, dans les années 2000, continuent à être embauchés au noir dans un système de précarité qui tient à l'illégalité. Et le gouvernement, en 2010, a décrété un certain nombre d'assouplissements de ces interdictions en disant que désormais, donc ceux qui étaient enregistrés auprès des autorités compétentes pour le dossier, hein, qui est traité de façon séparée complètement du reste des dossiers migratoires, peuvent avoir accès aux soins de santé, d'éducation. Alors ça, c'est à prendre quand même avec un peu de distance parce que tous les bidounes ne sont pas enregistrés. L'enregistrement est compliqué. Dès qu'on a participé à une manifestation ou dès qu'on n'a pas satisfait à tel ou tel critère, on peut se faire retirer sa carte. Donc la situation en termes de droit est quand même encore très préoccupante.
Et est-ce qu'il y a des bidounes ailleurs qu'au Koweït dans la région? L'ONU en recense un certain nombre, notamment en Arabie Saoudite et dans les Émirats, c'est cela?
Des bidounes, il y en a, enfin pour moi, il y en a partout dans le Golfe, sauf peut-être au Bahreïn, qui est le pays qui en fait a une politique inverse de naturalisation, qu'on appelle naturalisation politique, donc on naturalise plus qu'on ne refuse l'accès à la nationalité. Mais tous les pays du Golfe, en fait, ont des principes de fonctionnement d'accès à la nationalité qui sont extrêmement restrictifs, qui sont aussi extrêmement arbitraires. En fait, c'est toujours l'émir ou le roi qui signe les décrets de naturalisation. Et donc, il y a toujours une sorte de population résiduelle. Hein. Ça dépend. Ça peut être plutôt des gens d'origine iranienne. Alors, c'était le cas au Bahreïn jusqu'à les années à peu près 90, quand ils ont commencé leur politique inverse. C'est probablement le cas au Qatar. Aux Émirats, c'est un mélange de tribaux. Effectivement, le problème, c'est qu'il existe, mais qu'il n'est pas toujours ni reconnu, ni connu. Et il y en a en Arabie, puisque peut-être de façon anecdotique, à l'issue de la sortie de mon ouvrage, il y a eu beaucoup de réactions saoudiennes pour demander si j'avais pu documenter le problème en Arabie.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous sommes en compagnie de Claire Beaugrand du Centre d'études du Golfe à l'Université d'Exeter pour évoquer la situation des bidounes, ces non-citoyens dans leur propre pays, essentiellement le Koweït. Alors, dans beaucoup de pays du Golfe, la question de la citoyenneté est essentielle car elle conditionne souvent l'accès à la rente pétrolière. Est-ce pour cela que les bidounes réclament maintenant la nationalité dans les pays où ils habitent ?
Je pense que ce serait réducteur de dire uniquement que ce sont... En fait, c'est aussi un des ressorts de l'argumentation de l'État de Koweït, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont vraiment désintéressés. Hein. Ils sont venus pour nous voler notre argent. C'est une façon de discréditer des revendications qui, pour moi, sont beaucoup plus profondes. Les bidounes, quand on ne sait pas qu'ils sont bidounes, ils sont véritablement, culturellement, linguistiquement koweïtiens. On ne peut pas être égyptien et dire « Bonjour, enregistrez-moi, je veux la nationalité » parce qu'il y a des questions d'accent qui... Donc, c'est vraiment une population très particulière qui est autochtone et dont la présence, en fait... gêne parce qu'elle remet en cause les mythes fondateurs de l'identité, en tout cas koweïtienne, qui est une identité qui a été construite avant tout sur les bases du port, une identité maritime, une identité urbaine et une identité autochtone. On était là. Alors, les bidounes, avec leur discours de dire « nous, on a été là depuis plusieurs générations et finalement, c'est la présence qui compte sur l'autochtonie », c'est quelque chose qui est complètement inaudible. Et il me semble que de réduire leurs revendications uniquement à des préoccupations économiques serait manquer un peu l'enjeu aussi historique, la relecture historique que mes recherches ont pu faire sur le problème.
Et pour aller dans votre sens, par exemple aux Émirats, un certain nombre de bidounes ont pris une nationalité, mais pas la nationalité émirienne puisque ça leur était fermé, mais ils sont allés chercher une nationalité comorienne pour avoir des droits.
Alors exactement, et là je vous reprendrai immédiatement, ils ne sont pas allés chercher, on leur a imposé la nationalité comorienne au sens où il a été décidé de façon bilatérale entre les Émirats et le président Sambi des Comores fin des années 2000 de pouvoir acheter les droits d'obtenir des passeports comoriens, donc on appelle ça la citoyenneté économique. Et les Émirats ont versé de l'argent au gouvernement des Comores pour pouvoir donner ces passeports comoriens à leur population bidoune, dans l'espoir à l'époque que ce serait un petit peu une phase transitoire, c'est-à-dire une sorte d'enregistrement vers une potentielle nationalité émirienne, parce que c'est toujours quand même ce que désirent ces populations.
Et le fait qu'ils aient cette nationalité comorienne, un peu fictive finalement, ce n'est pas un risque pour ces populations ?
Alors, comme vous dites, elle est fictive, on ne sait pas du tout quel est le statut de la nationalité comorienne donnée aux bidounes émiriens. Par exemple, est-ce que l'ONU va reconnaître quelqu'un qui voyage avec ce passeport ? C'est un peu étrange parce que on ne sait pas très bien s'ils ont le droit d'aller aux Comores, qui a mis des conditions pour pas se retrouver avec soudainement 100 000 personnes de plus. Et on ne sait pas très bien quel est le statut pour une déportation. Comme on sait, c'est toujours l'épée de Damoclès sur toutes les populations étrangères dans le Golfe. Est-ce que ceux-là peuvent être retournés dans un pays qu'ils ne connaissent pas ?
Et à l'inverse, on peut perdre une nationalité émirienne, par exemple, ou koweïtienne, et devenir un bidoun ?
Oui, tout à fait. On peut perdre la nationalité dans le Golfe. C'est des pratiques qui ont eu lieu, par exemple, au Koweït, en tout cas, dans les années 80. Donc, des gens qui étaient un petit peu trop pro-iraniens se sont vus dénaturalisés et déportés vers l'Iran. C'était des mesures répressives qu'on n'avait pas vues dans les décennies d'après et qui ont refait leur apparition en août 2014, notamment à Koweït, avec un train de dénaturalisation de principaux opposants tribaux. Alors c'est toujours un peu les populations tribales qui sont vulnérables parce qu'on leur reproche d'avoir forgé des documents ou d'avoir une double nationalité. Donc ça, c'est aussi un sujet très explosif dans tous les pays du Golfe et notamment au Koweït.
Un dernier mot concernant ce qui est reproché parfois au Bidoun. Alors, on se souvient que l'un des bourreaux médiatiques de l'État islamique, Jihad John, qui était réfugié en Grande-Bretagne et qui était venu donc combattre depuis la Grande-Bretagne, aurait eu des origines koweïtiennes et notamment Bidoun. Et donc, cela a desservi le mouvement Bidoun, c'est cela?
Alors, Jihad John, typiquement, c'est la dernière catégorie que j'ai évoquée. En fait, c'est pas un Bidoun. C'est-à-dire que sa famille, elle a dû arriver au Koweït en 87. Or, le Koweït n'offre pas le statut de réfugié. Donc, ils sont repartis au début des années 90 vers le Royaume-Uni, où ils ont obtenu l'asile. Et c'est typiquement ce genre de cas qui a invalidé et discrédité l'ensemble des autres composantes du groupe Bidoun.
Et alors, est-ce que vous pensez que la situation des Bidoun peut s'améliorer à l'avenir ?
Alors, ça dépend dans quel pays. Je dirais que la conjoncture en ce moment, malheureusement, elle n'est pas très favorable parce qu'on est dans une période de crispation de l'ensemble des pays du Golfe, crispation envers les oppositions et envers les Bidoun. Il y a eu un mouvement de soulèvement qui a fait partie des printemps arabes en février 2011 à Koweït. Donc mouvement qui a été réprimé complètement, qui s'est prolongé à peu près jusqu'en 2014 et qui s'est essoufflé complètement. D'abord parce que n'a pas eu d'écho véritablement auprès des Koweïtiens. Il faut savoir quand même que des décennies en fait de discours officiels tout à fait anti-Bidoun, hein, encore une fois, c'est des discours qui sont pas du tout propres au Golfe, qui sont des discours qui fonctionnent très bien en Europe. Ce sont des étrangers qui viennent pour prendre notre service de santé. Voilà, hein, on comprend bien que ça résonne très fort. La population koweïtienne n'est pas toujours ou assez peu en empathie, sauf pour ceux qui connaissent véritablement des bidounes ou qui en ont dans leur famille, parce qu'il arrive aussi qu'on puisse avoir des familles koweïtiennes, d'autres bidounes, certains qui ont eu la nationalité, d'autres pas. Donc, il faut savoir que les koweïtiens ne sont pas majoritairement en faveur, en tout cas, d'une solution de naturalisation. Le Koweït a officiellement a toujours sur la table cette idée d'une naturalisation, le système de naturalisation comorien, enfin de citoyenneté économique comorienne n'est plus vraiment à l'ordre du jour. La raison est que le président des Comores a changé, que le Parlement s'est ressaisi après avoir été quand même largement soudoyé pour passer la loi en 2008, s'est ressaisi du dossier en disant finalement on n'est plus tellement d'accord. Donc le débouché comorien semble un peu bouché, mais il semblerait qu'il y ait d'autres pays africains dont on tait le nom, parce qu'il dit toujours, ou d'autres pays qui soient disposés éventuellement à marcher dans ce genre de tractation.
Donc c'est une situation difficile encore pour les Bidoun longtemps.
C'est une situation qui est d'autant plus difficile et désespérée parce que on voit bien le niveau de désespoir de cette population qui finit par préférer en fait prendre les routes des réfugiés syriens, afghans, irakiens, et on retrouve désormais des Bidoun. On en a retrouvé à Calais. On retrouve les Bidoun parmi les populations qui demandent l'asile dans les pays européens, particulièrement au Royaume-Uni.
Merci Claire Beaugrand. Je rappelle que vous êtes chercheuse au Centre d'études du Golfe à l'Université d'Exeter en Grande-Bretagne.
Merci Éric Bataillon.
Et je renvoie à votre livre justement sur les Bidoun, Stateless in the Gulf, Migration, Nationality and Society in Koweït. C'est donc écrit en anglais. C'est aux éditions IB Toris. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr rubrique émission ainsi que sur notre page Facebook. Vous pouvez également la podcaster sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite à nouveau journal.